Chapitre 28 Le Super-Homme. Un codex d'Anéalec dit les dieux, créèrent les hommes en bois, et après les avoir créés, ils fusionnèrent avec la divinité, mais il ajoute tous les hommes n'arrivent pas à s'intégrer à la divinité. Tout d'abord, incontestablement, il faut créer l'homme, avant de pouvoir l'intégrer au réel. En aucune manière l'animal intellectuel, erronément appelé homme, n'est un homme. Si nous comparons l'homme à l'animal intellectuel, nous pourrons vérifier par nous-mêmes le fait concret, que l'animal intellectuel, bien que physiquement semblable à l'homme, en est totalement différent, psychologiquement. Malheureusement, tous pensent de manière erronée, tous supposent être des hommes, et se qualifient comme téléphone. Nous avons toujours cru que l'homme est le roi de la création. Jusqu'à ce jour, l'animal intellectuel n'a même pas encore montré qu'il fut roi de lui-même. S'il n'est pas roi de ses propres processus psychologiques, s'il ne peut les diriger à volonté, il sera encore moins capable de gouverner la nature. En aucune manière, nous ne saurions accepter l'homme converti en esclave, incapable de se gouverner lui-même et converti en un jouet des forces bestiales de la nature. Où on est roi de l'univers, où on ne l'est pas. Ceci démontre, incontestablement, le fait concret qu'on n'est pas encore arrivé à l'état d'homme. Le soleil a déposé les germes pour créer l'homme, à l'intérieur des glandes sexuelles de l'animal intellectuel. Évidemment, ces germes peuvent être développés ou perdus définitivement. Si nous voulons que ces germes se développent, il devient indispensable de coopérer à l'effort que le soleil fait pour créer des hommes. L'homme légitime doit travailler intensément, dans le but évident d'éliminer de lui-même les éléments indésirables qu'il porte à l'intérieur. Si l'homme réel n'éliminait de lui-même ces éléments, il échouerait lamentablement. Il se convertirait en avorton de la mère cosmique, en un échec. L'homme, qui travaille vraiment sur lui-même dans le but d'éveiller la conscience, pourra s'intégrer au divin. Il est ostensible que l'homme solaire intégré à la divinité, se convertit de fait, et par droit propre, en super-homme. Il n'est pas facile d'arriver au super-homme indiscutablement, le chemin qui mène au super-homme, se trouve au-delà du bien et du mal. Une chose est bonne quand elle nous convient, et mauvaise quand elle ne nous convient pas. Le délice se cache aussi parmi les rythmes de la poésie. Il y a beaucoup de vertus chez le méchant, et beaucoup de méchanceté chez les vertueux. Le chemin qui mène au super-homme, est le sentier en fil de rasoir, ce sentier est rempli de dangers, à l'intérieur et à l'extérieur. Le mal est dangereux, le bien l'est aussi, l'épouvantable chemin est au-delà du bien et du mal, il est terriblement cruel. Un code de morale quelconque peut nous arrêter dans la marche vers le super-homme, l'attachement à tels ou tels souvenirs, à telles ou telles scènes, peut nous arrêter sur le chemin qui mène au super-homme. Les normes, les procédés, pour sages qu'ils soient, peuvent nous bloquer dans la marche vers le super-homme, s'ils se trouvent enfermés dans tel ou tel fanatisme, tel ou tel préjugé, telle ou telle idée. Le super-homme connaît le bon du mauvais, et le mauvais du bon, il empoigne l'épée de la justice cosmique, et il est au-delà du bien et du mal. Le super-homme, qui a liquidé en lui-même toutes les valeurs bonnes et mauvaises, se convertit en quelque chose que personne ne comprend. C'est la foudre, c'est la flamme de l'esprit universel de vie, qui resplendit sur le visage d'un Moïse. À chaque halte du chemin, un anachorète offre ses cadeaux au super-homme, mais celui-ci continue son chemin au-delà des bonnes intentions des anachorètes. Ce que dirent les gens sous les portails sacrés des temples est très beau, mais le super-homme est au-delà des discours pieux des gens. Le super-homme est la foudre et sa parole, le tonnerre qui désintègre les pouvoirs du bien et du mal. Le super-homme resplendit dans les ténèbres, mais celles-ci le haïssent. Les multitudes qualifient de pervers le super-homme, par le fait même qu'il ne cadre pas avec les dogmes indiscutables, ni avec les phrases pieuses, ni avec la saine morale des gens sérieux. Les gens abhorrent le super-homme et le crucifient parmi d'autres criminels, parce qu'ils le jugent en le regardant à travers la lentille psychologique de ce que l'on croit être sain, même si c'est malfaisant. Le super-homme est comme la foudre qui tombe sur les pervers, ou comme l'éclat de quelque chose qu'on ne comprend pas, et qui se perd plus tard dans le mystère. Le super-homme n'est ni saint, ni pervers, il est au-delà de la sainteté et de la perversité. Mais les gens le disent saint ou pervers. Le super-homme brille un moment dans les ténèbres de ce monde et disparaît plus tard, pour toujours. Dans le super-homme, le Christ rouge resplendit comme un embrasement. Le Christ révolutionnaire, le Seigneur de la grande rébellion.